RFI, 6h, à Paris, 5h, en temps universel. Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Jeanne Bartoli. Et
bonjour Julien, bonjour à tous.
Dans cette édition, le désespoir des déplacés de la guerre civile syrienne.
Un mois après la chute de Bachar al-Assad, leur quotidien n'a pas changé. La plupart vivent toujours dans des camps dans la région d'Idleb. Ils s'estiment abandonnés. Reportage de notre envoyé spécial dans un instant. À la une aussi, le cabinet de sécurité israélien qui doit valider aujourd'hui l'accord de trêve à Gaza trouvé avec le Hamas. Un accord en plusieurs temps qui prévoit notamment l'entrée significative d'aide humanitaire. En France, François Bayrou échappe sans surprise à sa première motion de censure. La gauche se fracture puisque le Parti Socialiste n'a pas voté hier la motion déposée par la France Insoumise. Et puis on reviendra à la fin de ce journal sur la disparition de David Lynch, le réalisateur de Mulot, Land Drive et d'Elephant Man, est mort hier à l'âge de 78 ans.
Et on débute ce journal en Syrie où ils en appellent aux nouvelles autorités de Damas.
Mais plus d'un mois après la chute de Bachar al-Assad, les déplacés de la guerre civile syrienne n'ont pas vu leur quotidien changer. Ils sont 2 millions à vivre dans des camps dans la région d'Idleb. Ils espéraient pouvoir rentrer chez eux rapidement avec la chute du régime. Mais voilà, ils sont toujours bloqués dans ces camps. Idleb, bastion rebelle qui a longtemps résisté aux assauts du régime de Damas. Notre envoyé spécial Manon Chaplin est allé à la rencontre de ces déplacés.
Raïdan passe ses journées à errer dans les allées du camp de déplacés Mermet Arif Kidiman. La nuit tombée, elle se serre dans une petite tente avec sa fille, rêve d'enfin pouvoir rentrer chez elle. Son quartier, la Routa orientale à Damas, a été bombardé par le régime.
Ma maison est complètement détruite, je n'ai plus rien là-bas. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas d'argent pour nous aider. Notre situation est très mauvaise.
Cette Syrienne survit ici grâce à de maigres revenus, 20 dollars par mois qu'elle gagne péniblement grâce à quelques bouts de plastique ramassés dans la montagne. Bien trop peu, dit-elle, pour espérer et un jour me reconstruire une maison.
Je ne sais pas exactement combien cela coûte. Au minimum, 10 000 dollars. Nous demandons à Allah que quelqu'un nous vienne en aide. Car vous savez, cela fait déjà 14 ans que nous vivons ainsi.
Les 1000 familles qui vivent ici racontent toutes la même histoire. La fuite de leur quartier, leur maison bombardée, puis ici le manque de tout, d'eau, de nourriture, de vêtements et de médicaments. Ayman Massan, coordinateur du camp.
Notre situation est pire depuis la chute du régime. La souffrance ne change pas. Au contraire, la plupart des organisations humanitaires se rendent désormais dans les villes libérées. Ils oublient les camps et leurs habitants. Elles ne nous soutiennent plus. Regardez les ordures dans la rue. Plus personne ne vient les ramasser. Le Croissant Rouge turc ne nous fournit plus que du pain. Nous n'avons plus d'aide alimentaire.
Chute du régime ou non, conclut-il, pour nous les déplacés, rien ne change. Nous sommes les oubliés de Syrie. Manon Chaplin à Idlib, RFI.
Et la chute du régime Assad, allié de l'Iran, qui continue de modifier les équilibres régionaux après la Turquie. Le Qatar avait été le deuxième pays à rouvrir son ambassade à Damas en visite hier dans la capitale syrienne. Le premier ministre qatarien promet qu'il va fournir au pays le soutien technique nécessaire à la réhabilitation des infrastructures. Mohamed Ben Abdelrahman Al-Thani, qui a également appelé Israël à se retirer immédiatement de la zone tampon avec la Syrie, le plateau du Golan.
Le Qatar qui a joué un rôle de premier plan dans l'accord de trêve à Gaza trouvé entre Israël et le Hamas.
Un accord qui doit être validé ce matin par le cabinet de sécurité israélien. Réunion qui devait avoir lieu hier mais qui a été reportée. L'accord prévoit la libération de 33 otages israéliens et de centaines de prisonniers palestiniens. Il comporte également un volet humanitaire et une entrée plus importante de l'aide. Mais comment? C'est la question qui se pose alors que les routes sont actuellement totalement détruites dans l'enclave. Écoutez Karine Oster, elle est coordinatrice médicale à Médecins sans frontières.
C'est toujours la même chose. Quels sont les corridors qui seront ouverts? Qu'est-ce que Rafah sera réouvert? Est-ce que dans le nord, ils réouvriront pour qu'on puisse faire rentrer des camions par différents endroits? Ça peut permettre de décentraliser un peu l'aide humanitaire. Mais tout ça, ça dépend vraiment du gouvernement israélien, des forces armées israéliennes, d'aider dans ce sens-là. Et évidemment, les routes, c'est la catastrophe, elles sont complètement détruites. C'est des routes détruites, c'est des gens qui ont mis leur boutique ou leur tente à gauche et à droite de la route. Donc c'est très étroit, on ne peut pas faire passer des centaines de camions par là, quoi. Donc c'est clair que ça va être un challenge. Après aussi, il va y avoir la question des pillages. C'est quelque chose qui est un fait, c'est une réalité. Et je pense que si les gens ont l'assurance que l'aide va rentrer régulièrement et en quantité complètement suffisante, ça désamorce un peu l'envie de vouloir piller parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver le lendemain.
Et Karine Steur de Médecins Sans Frontières au micro de Muriel Paradon, Gaza qui continue d'être bombardée par l'armée israélienne. 81 morts depuis l'annonce de la trêve qui doit entrer en vigueur dimanche.
En France, le Premier ministre François Bayrou a donc survécu à sa première mobilisation. De censure.
Mais ce n'est pas une surprise puisque le Rassemblement national avait exclu de voter la motion de censure déposée par la France insoumise, soutenue par les communistes et les écologistes. Un vote qui n'est pas sans conséquence néanmoins puisque la gauche se fracture. Le Parti socialiste n'a pas voté hier la censure. Victorien Villaume.
Non à la confrontation permanente, oui à une gauche qui propose et avance. Voilà pour le message répété à l'envi par les socialistes. La députée Béatrice Bellé.
Plus 11% sur la mission Outre-mer, 4000 postes qui étaient censés être retirés à l'éducation nationale. Ça, ce sont des victoires de gauche.
Une stratégie qui tranche avec le reste du nouveau Front populaire et que les insoumis en particulier digèrent très mal, parlant de fracture. Éric Coquerel.
Je considère qu'à ce stade, ceux qui ne la votent pas, de facto, sont dans une majorité sans participation au gouvernement. Donc ça veut dire un renversement d'alliance de la part du Parti socialiste et en plus pour un enfumage total.
Nettement moins catégorique, les écologistes comme Benjamin Lucas plaident plutôt l'apaisement au sein de la coalition.
Un désaccord de stratégie parlementaire n'efface pas une alliance politique est indispensable. Regardez avec beaucoup d'espoir par des millions de Français qui attendent de tourner la page du macronisme.
Et pour le socialiste Emmanuel Grégoire, c'est plutôt circuler, il n'y a rien à voir.
Je trouve ça sain qu'à l'intérieur de la gauche, eh bien, il y a des différences qui s'assument et qui s'expriment, ça n'empêche pas de se retrouver à certains moments.
Mais la démarche du PS n'est pas tout à fait désintéressée. Elle permet de se démarquer des insoumis et de reconquérir une part d'autonomie que certains estimaient avoir perdue.
Victorien Villaume du service politique d'RFI. La France où il y a 50 ans, jour pour jour, la loi Veil autorisant l'interruption volontaire de grossesse entrait en vigueur. Reportage à Presse Journal. Et puis la France où le président angolais João Lourenço achève aujourd'hui sa visite d'État. Il a été reçu hier par Emmanuel Macron au cœur des discussions, notamment la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Angola qui va prendre par ailleurs en février prochain la présidence tournante de l'Union africaine.
L'Est de la RDC justement, avec une question ce matin, se dirige-t-on vers un allègement de l'état de siège en vigueur depuis près de 4 ans ?
Mercredi, lors d'un conseil des ministres extraordinaire, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a demandé à son gouvernement de lui présenter une feuille de route visant à mettre progressivement fin à cet état de siège. Celui-ci avait été instauré pour mettre fin aux violences dans l'est du pays. Précision Alexandra Branjon.
Le gouvernement a 15 jours pour remettre au chef de l'État une feuille de route en vue d'une levée progressive de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Cette mesure exceptionnelle avait été décrétée en avril 2021 par le président Tshisekedi pour rétablir la paix dans ces deux provinces menacées par l'insécurité. Mais depuis, son efficacité est remise en cause, à commencer par la société civile et les députés des provinces en question. Cette mesure n'a pas apporté les résultats escomptés, faisait remarquer il y a peu Gratien Hirachan, l'élu de Bounia en Ituri. La levée de cette mesure, avait-il ajouté, permettrait de rétablir les autorités civiles et permettrait ainsi à l'armée de se concentrer sur les opérations militaires contre les rebelles du M23 et des ADF. Il y a deux mois, la première ministre s'est rendue dans les deux provinces pour dresser un bilan de ce dispositif. La mission a conclu que l'état de siège est encore considéré comme une nécessité, a fait savoir le porte-parole du gouvernement à l'issue de ce Conseil des ministres, tout en ajoutant que le besoin d'alléger davantage le dispositif s'était fait sentir au sein des populations concernées.
Alexandra Branjon.
RFI 6h09 à Paris. Malgré les tensions récurrentes entre les deux pays, la Chine annonce que son vice-président assistera lundi à l'investiture de Donald Trump.
Et la capitale américaine Washington se prépare pendant ce temps à cette investiture. Un niveau de sécurité sans précédent après une campagne électorale marquée par la violence, deux tentatives d'assassinat l'assassinat notamment qui ont visé Donald Trump, la Maison-Blanche, le Capitole et une partie du parcours de la parade sont déjà barricadés. Quelques 48 kilomètres de clôture anti-escalade ont été érigés autour du périmètre de sécurité. C'est un record.
Les États-Unis qui ont placé 3 pays européens sur la liste des pays soumis à des restrictions dans l'importation de puces électroniques.
Et ces pays sont pourtant des pays amis, membres de l'OTAN. Il s'agit de la Pologne, de l'Estonie et de la Lituanie. Stupeur et incompréhension dans les capitales concernées qui dénoncent la décision de Washington. Agnieszka Kumor.
Varsovie, par la voix de son vice-ministre des Affaires numériques, demande à l'administration américaine de clarifier sa décision. Décision que le ministre estonien des Affaires étrangères qualifie d'irréfléchie et de nuisible. Même son de cloche du côté de Vilnius. Le président lituanien espère que ces restrictions ne sont pas définitives. C'est Joe Biden, le président sortant, qui a annoncé en début de semaine que les puces électroniques américaines les plus avancées ne pourront plus être exportées librement vers d'autres pays que les pays amis. Des puces particulièrement stratégiques pour l'intelligence artificielle générative et pour des besoins militaires. La Commission européenne s'était aussitôt déclarée préoccupée par ces nouvelles règles visant à empêcher l'accès de la Chine et d'autres rivaux à cette technologie de pointe. Les membres de l'UE ne seraient-ils pas des pays amis des États-Unis? Étonnement de Bruxelles qui assure c'est dans l'intérêt de l'économie et de la sécurité américaine que l'Union européenne achète des systèmes d'IA aux États-Unis sans restriction.
Agnieszka Kumor.
Enfin, c'était un rêveur visionnaire et singulier dont les films résisteront au temps.
L'hommage rendu par Steven Spielberg à David Lynch, le réalisateur américain disparu hier à l'âge de 78 ans. Il avait tourné 10 films en 30 ans, dont certains sont considérés comme des monuments du cinéma. Elephant Man, Mulholland Drive, en passant évidemment par Blue Velvet ou encore Twin Peaks. Porté notamment par des bandes originales qui ont aussi fait le succès de David Lynch. Sur l'univers sonore du réalisateur, je vous propose d'écouter Nicolas Saada, spécialiste du 7e art.
Chez lui, tout est texture. Il y a une texture de l'image avec des profondeurs, des noirs, des couleurs, et il y a une texture sonore. Et c'est quelqu'un qui, dès son premier film, Eraserhead, s'est beaucoup intéressé au son industriel, au son de la rue, et à la manière d'exagérer les sons. Il cite souvent comme un de ses maîtres Jacques Tati, et quand on regarde le cinéma de Jacques Tati, c'est quelqu'un qui part du réel et qui le déforme et le tire vers quelque chose qui devient abstraction. Avec Lynch, on a ça, on a cette espèce d'écoute, comme si ses oreilles étaient remplies d'une espèce de sixième sens qui lui permettait d'entendre un son dans le son, dans le son, dans le son, et la musique participe comme ça à ces textures sonores de ses films qui sont uniques. Et qui inspire beaucoup de jeunes cinéastes aujourd'hui, c'est tant mieux, pour une raison qui est assez claire. C'est que c'est un cinéaste libre.
Nicolas Saada au micro de Loïc Buissière. Et puisqu'on parle de l'univers sonore de David Lynch, on écoute tout de suite Blue Velvet, interprétation légendaire de l'actrice Isabella Rossellini. She un peu plus, mais c'est à Julien Coquel-Roem que je rends le micro.
Merci Jeanne Bartoli et merci pour cet hommage. Vendredi 17 janvier 2025, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information et l'attente du cessez-le-feu à Gaza et de la libération des otages après l'annonce d'un accord entre Israël et le Hamas mercredi. Une journée de revirement et d'incertitude hier. Benjamin Netanyahou a repoussé la signature accusant le Hamas de revenir sur certains détails du plan. Un vote du cabinet de guerre est finalement prévu ce matin pour l'approuver et à Gaza, les bombardements israéliens continuent en attendant son entrée en vigueur.
Les frappes qui ont visé Deir el-Balah durant la nuit ont été vraiment dévastatrices. Un campement de déplacés a entièrement brûlé. On parle de plus de 20 morts. Alors on nous dit que la trêve entrera en vigueur dimanche à 12h15, mais en attendant, le sang continue de couler.
Cet habitant de la bande de Gaza avec Sabi Bourlifa dans le journal de 6h, temps universel, l'attente de cet accord, on en parle aussi avec notre invité dans une heure, Ariane Tamir, membre de la famille d'un otage israélien, toujours détenu par le Hamas. Hamas, ça fait maintenant près de 470 jours. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi Los Angeles, toujours menacée par les flammes. Notre envoyé spécial Harim Leipold nous appelle sur place tout à l'heure. Et puis les États-Unis où Donald Trump revient au pouvoir dans 3 jours. On fera le bilan économique de la présidence Biden avec Stéphane Genest. Mais pour commencer ce matin, à la une en Asie, nous emmène en Thaïlande. La Thaïlande qui pourrait devenir d'ici 2029 le nouveau temple du jeu en Asie. C'est en tout cas l'objectif affiché par le gouvernement qui vient d'adopter un projet de loi légalisant les casinos et les jeux d'argent dans le royaume. L'initiative portée par le ministère des Finances vise à dynamiser le secteur touristique et à renforcer l'économie, tout en combattant les casinos clandestins, véritable fléau qui échappe au contrôle de l'État. Bonjour Yelena Tomic.
Bonjour Julien.
Que prévoit ce projet de loi ?
Eh bien, comme le sujet est polémique, la première ministre Petongtan Shinawat s'est bien gardée de parler de casinos. Le texte évoque plutôt des complexes de divertissement, une manière d'apaiser les craintes dans une société à majorité bouddhiste, inquiète des conséquences néfastes des jeux d'argent, dépendance et endettement en tête, et qui font des ravages dans certaines familles. A priori, les casinos seront implantés sur 5 sites, 2 à Bangkok, la capitale, et 3 autres à Pattaya, Chiang Mai et Phuket. Ils devront obligatoirement faire partie d'un complexe de loisirs englobant un hôtel, une salle de congrès, un centre commercial ou un parc à thème pour attirer les familles. Les casinos seront interdits aux moins de 20 ans, gratuits pour les étrangers et payants pour les Thaïlandais qui devront débourser 140 euros.
L'un des principaux arguments du gouvernement qui est entré en fonction en septembre, c'est, on le disait, de promouvoir le tourisme, principal moteur de l'économie, et de lutter contre les jeux de hasard illégaux.
Oui, la question de la légalisation des casinos est un serpent de mer, Julien. En Thaïlande, la Thaïlande a interdit les jeux en 1935. Seule la loterie nationale et les courses de chevaux sont autorisées par l'État. De nombreuses administrations ont tenté dans le passé de rouvrir les débats sur cette question sans succès. L'argument est avant tout économique, on l'a dit, car les casinos pourraient attirer plus de touristes étrangers, ce qui permettrait de renflouer les caisses de l'État. Bangkok prend comme modèle Singapour, où l'industrie du jeu a stimulé le tourisme et augmenté la croissance économique de la cité-État. Et l'autre argument est juridique, puisque la Thaïlande espère réglementer les activités illégales et mettre un frein aux casinos qui pullulent à la frontière avec la Birmanie, le Cambodge ou le Laos.
Quel serait l'impact justement pour les pays voisins, Yelena ?
Alors forcément, le projet thaïlandais est scruté de près par Singapour ou les Philippines, qui tirent déjà d'énormes bénéfices de ce secteur, qui se chiffre en milliards d'euros. Macao n'a pas de souci à se faire, Julien, car il reste le champion hors catégorie en Asie. L'industrie avoisine les 28 milliards. Pour concurrencer les voisins, Bangkok envisage un taux d'imposition de 17%, soit le plus bas d'Asie. Et si les casinos deviennent légaux dans le royaume, l'impact sera énorme pour le Cambodge, car l'écrasante majorité des joueurs dans ces casinos le long de la frontière sont justement thaïlandais. Manille pourrait également mécaniquement avoir une baisse de recettes. Le président Marcos envisage déjà d'autoriser l'ouverture de nouveaux complexes hôteliers avec casinos pour attirer les touristes. Une chose qui ne changera pas selon les spécialistes de l'économie souterraine. Les casinos visent avant tout une clientèle étrangère fortunée et la légalisation n'éliminera certainement pas les jeux de hasard clandestins qui continueront à entraîner dans la spirale de la dette des milliers de Thaïlandais accros aux jeux.
Yelena Tomic, à la une en Asie. Merci beaucoup.
RFI Matin.
Et avant la revue de presse tout à l'heure, on ouvre déjà les pages des quotidiens français traversés ce matin par l'attente dont je vous parlais, celle du cessez-le-feu à Gaza et de la libération des otages. Un accord de paix que le cabinet de guerre israélien doit approuver ce matin et dont Libération souligne la fragilité. L'historien Vincent Lemire évoque le découpage de l'accord en plusieurs phases qui, dit-il, autorise techniquement Benjamin Netanyahou à s'engouffrer dans n'importe quelle brèche pour interrompre le processus. Idem pour le Hamas, bien évidemment, mais Vincent Lemire appelle aussi à prendre en compte les sociétés civiles palestiniennes et israéliennes. Le soulagement et la délivrance ressentis mercredi soir à Gaza et en Israël. Des deux côtés, dit-il, il y a un consensus social et culturel très sincère et très profond concernant cette trêve. Un soutien à l'accord qu'on retrouve aussi dans les pages du Figaro ce matin, alors que l'extrême droite israélienne menace de claquer la porte du gouvernement. Les mots du fils d'un des otages toujours retenus à Gaza Cet accord est la seule option réaliste pour nous sortir de l'impasse, affirme Izar Lifshitz. Tout le reste, ce ne sont que des bruits qu'il ne faut pas écouter. Et puis l'accord qui n'a pas encore mis fin aux souffrances des habitants de la bande de Gaza, alors que les frappes israéliennes ont encore tué des dizaines de civils depuis mercredi. Les douleurs persistent, dit Eyad, un ingénieur habitant de Deir el-Balah, interrogé par Le Parisien. Nos sentiments sont mitigés, nous avons envie de faire la fête, mais nous avons tous perdu nos proches, nos maisons, raconte-t-il. Mes enfants n'ont plus d'école et ont du mal à dormir, car ils ont peur de mourir. Il est 6h19 à Paris. 17 janvier 2025, c'était il y a 50 ans, jour pour jour.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
Quelques semaines après ce discours historique de Simone Veil à l'Assemblée nationale, c'était donc il y a tout juste un demi-siècle, le 17 janvier 1975, la loi de dépénalisation de l'avortement était promulguée en France. Un moment d'histoire dans un pays où les avortements clandestins tuaient à l'époque une femme par jour. 50 ans plus tard, de nombreuses avancées sont venues s'ajouter à ce premier pas, l'entrée du droit à l'IVG dans la Constitution l'an dernier ou encore il y a quelques mois, cette autorisation pour les sages-femmes de procéder aux IVG instrumentales dans les mêmes conditions que les médecins. Une mesure cruciale pour permettre l'accès à l'IVG là où la demande est forte. Reportage dans le sud de la France, à Toulon, le département du Var, où l'on recense aujourd'hui le plus d'IVG par habitante en métropole. C'est Siam Spencer qui nous emmène sur place.
Derrière les portes vitrées de l'hôpital Sainte-Muce de Toulon, après un ascenseur et un dédale de couloir, on peut rencontrer Julia, sage-femme habilitée à pratiquer les interruptions volontaires de grossesse.
Tous les lundis, en fait, il y a une sage-femme qui fait des consultations d'IVG. Le lundi matin, on est au bloc pour faire les IVG chirurgicales. Et ensuite, l'après-midi, on a un créneau pour faire des consultations ou programmer un créneau de chirurgie.
Les IVG chirurgicales, ce sont celles qui nécessitent une opération et qui permettent aux femmes d'avorter jusqu'au délai maximum légal de 14 semaines de grossesse. Les sages-femmes volontaires, comme Julia, peuvent le pratiquer depuis avril dernier.
Donc le but était de répondre à une demande croissante. Très souvent, lors des appels, elles nous disent « je veux que ça soit vite et je veux être prise en charge vite ». Leur demande de rendez-vous doit être rapide.
Alors Julia et une de ses collègues se relaient chaque semaine.
Il y a un lien de confiance qui est tissé, ça nous permet du coup de les mettre dans un vrai parcours de soins, qu'elles soient suivies.
Une avancée pour les sages-femmes, mais surtout pour les femmes, explique le docteur Quentin Berle, gynécologue obstétricien et responsable du réseau Ville-Hôpital sur les IVG de Toulon.
C'était une demande depuis assez longtemps de certaines sages-femmes qui faisaient déjà les IVG médicamenteuses en ville. C'est un acte qui, techniquement, avec une formation qu'on peut réaliser en toute sécurité, et la possibilité de ces sages-femmes de le faire, c'est vraiment une très bonne avancée pour faciliter l'accès.
Et parfois, avant de pousser les portes de l'hôpital, les futures patientes s'adressent au planning familial dans les locaux en pleine ébullition à Toulon pour cette date anniversaire de la loi Veil, même si...
Alors, on peut se sentir submergé à certains moments. Donc voilà, c'était une demande au planning.
Valérie est conseillère au planning familial de Toulon. Elle avait déjà observé les bénéfices de l'autorisation pour les sages-femmes de pratiquer l'IVG médicamenteuse.
Maintenant qu'il y a les sages-femmes qui ont l'autorisation, ça nous permet aussi d'ouvrir des créneaux pour la contraception, permettre à d'autres femmes de venir pour d'autres raisons.
Même si on peut toujours aller plus loin, explique-t-elle.
L'IVG instrumental, nous, on oriente, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un accès à l'IVG plus important et de pouvoir répondre à la demande. Après, j'ai envie de dire, moi, je milite pour la formation du personnel médical à être formé pour pouvoir entendre leurs ressentis, leurs émotions, que ça soit pas non plus qu'un geste médical.
En France, plus d'un avortement sur 5 est réalisé par voie chirurgicale.
Siam Spencer à Toulon pour notre reportage France. Un œil sur la suite de votre journée à l'écoute des RFI. À 11h10, temps universel, vous nous posez vos questions sur notre travail. Et Juliette Rangeval vous répond dans Pourquoi RFI dit ça? Bonjour Juliette.
Bonjour.
L'émission se fait aujourd'hui l'écho des inquiétudes autour de l'influence des réseaux sociaux et du risque qu'il ferait courir à la démocratie.
Facebook, X, Instagram, des réseaux pour socialiser d'abord, ensuite pour s'informer et qui pourraient se transformer en une formidable machine à manipuler l'opinion Depuis la réélection aux États-Unis de Donald Trump, la perspective inquiète en tout cas l'Union européenne et les professionnels de la presse. Stephen Jambot, qui présente chaque semaine l'atelier des médias, revient sur l'enjeu aujourd'hui pour les médias traditionnels comme RFI.
L'enjeu actuellement, c'est de se dire que tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux, qu'il y a également nos sites, nos applications qui sont des environnements sur lesquels nous médias avons la main et sur lesquels nous vous diffusons de l'information de qualité produite avec rigueur, avec honnêteté, avec des standards d'éthique et de déontologie que tout le monde ne partage pas forcément.
Les médias à l'ère numérique, expliqués par Stephen Jambot, retrouvés dans l'émission tout à l'heure.
Autre sujet dans Pourquoi RFI dit ça cette semaine, la présence de soldats nord-coréens en Ukraine pour combattre aux côtés des forces russes.
Une présence jamais confirmée ni par Moscou ni par Pyongyang. Alors certains auditeurs doutent de l'existence même de ces soldats et nous ont demandé ce que nous, à RFI, nous savions de ces hommes. Réponse de Franck Alexandre, notre spécialiste défense.
Pour illustrer cette présence, il y a enfin de nombreuses vidéos produites souvent par des blogueurs ukrainiens, il faut le préciser. Ce sont des informations à prendre avec des pincettes, mais sur l'une d'elles, on peut voir un soldat qui, pour ne pas se laisser prendre, dégoupille une grenade et au dernier moment, au moment de mourir, il hurle « Vive le général !» Kim Jong-un. Il existe donc un faisceau d'indices sur cette présence de soldats nord-coréens en Ukraine, conforté par le travail parlementaire sud-coréen, un parlement véritablement démocratique.
Franck Alexandre qui revient sur le sujet ce week-end dans sa chronique Ligne de défense. Alors vous voyez, c'est le week-end et vous avez plein de programmes à écouter sur RFI.
Oui, c'est bien de le rappeler et on sera là. En attendant, on vous retrouve tout à l'heure. Pourquoi RFI dit ça ? C'est à 11h10, temps universel et 19h40 aussi. Les auditeurs peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag, le mot-clé Pourquoi RFI dit ça ? Ou nous écrire à relations.auditeur@rfi.fr. Merci Juliette Rangeval. Et bientôt 5h30 en temps universel sur la radio du monde, le journal dans 4 minutes, mais tout de suite un peu de musique. Le rappeur Tiakola et son titre No Limits, c'est dans la sélection du mois d'RFI.
Je viens faire le beau jeu comme brésilien. Blanc masqué comme cartel mexicain. Que du taf, y'a rien de magique, j'ai pas collé. Comme Martin devant l'américain. Le soir, je m'endors des rêves plein la tête. Pitch, peu, je me bats pour y accéder. Que d'amour dans mes shows pour me booster. Fatigué, je continuerai même fatigué. Hey. Et tu sais ce qu'on aime pas. Grandis dans street, donc tu lis la notice. Un peu de joie quand tu vas sur la piste. Ce qu'on a fait grâce à la vie d'artiste. Mettons le mal, voilà ce qui est dans la crise. Je vois beaucoup mieux la Matrix. Niquer des mecs dans les vis. Niquer des mecs dans les vis. Chérie, laisse ça. J'ai plus tant de jouer à ça. Dans ma vie, des love. J'ai reçu, j'ai vu, c'était que de passage. Ne vois qu'un côté dans le succès. Lumière éteinte, plus d'artiste. C'est noir. C'est tracas et prière pour me vider la tête. De l'ambiance en soirée dans nos week-ends. Que j'ai la bien caillé dans nos dégaines. Et cet âge, je veux de l'oxygène. Ni ça connaît pas soin quand on dégaine. Sur le corner numéro 7. Sur le maillot, t'es ma comme je les gêne. L'avenir ne peut être que pérenne quand on grandit avec tous les sébènes. Hey, hey. Allez, beaucoup du goût. Du boulot, y'en a beaucoup du goût. Propos, j'en ai plus, faut fermer les bouches. Oulala, moulala, j'en veux beaucoup du goût. Pour faire entrer, faut rester debout. Comme toi, la vie d'un m'a mis des tout. Oulala, j'veux les beaucoup du goût. Oulala, poussez-vous, j'veux les beaucoup du goût. Hey, yeah. J'empile, y'a ce billet tous les jours. J'essaie, c'est trop billet tous les jours. J'en ai pas là, forcément les souris dansent. J'accumule les récompenses, j'suis en plan dans ma vocation. J'suis en plan dans ma vocation. Baby voudrait des vacations. J'aime tout la love. Elle Marcel avec ses cations. Si tu connais le G.O.A.T, tu sais qu'il est dans sa fast life. Trop stylé, aucun fashion, faut pas. Elle me dit qu'autour de moi y'a trop de wild. La même mentale que Franquin. No limit. Off spot, taille, go, j'élimine. La même mentale que Franklin. J'élimine. No limit. Obstacle, j'ai rangé dans nos week-ends. Que j'ai l'orbe caillé dans nos dégaines.
No Limits, le titre du rappeur Tiakola dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr et sur la radio du monde. L'info continue, ne partez pas. Prochain journal dans une minute. A tout de suite.
Côté Santé,
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Nous vous proposons de réentendre l'émission Questions de femmes que nous avions consacrée à la fatigue, un symptôme à ne pas négliger, un spécialiste avec vous.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. La marche du monde. Valérie Nivelon.
Walid Aslaibi, Ogarit Younan, un couple hors du commun. 40 ans d'amour et de militantisme pour la paix. Ensemble, ils ont fondé l'Académie universitaire pour la non-violence et les droits humains dans leur cher pays, le Liban. Oui à la résistance, non à la violence et leur mantra.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.